Radio Kapi.
Oh, Kapi. Passez en Sngaloula à la présentation. À la une de cette session de vos nouvelles vespérales, qui sera le prochain candidat président de l'Assemblée nationale? L'Union sacrée pour la nation organise ce mardi des primaires pour départager trois candidats à ces postes, notamment Modeste Batiloukwebo, Vital Kamere et Christophe Mbosso. Encore un meurtre par balle à Goma au Nord Kivu, dont l'auteur a été identifié comme un élément des FRDC en divagation. Hier dimanche, en plein jour, un passant est mort au centre-ville et cinq personnes blessées par les tirs du même soldat. L'invité de ce journal est Valérie Madianga, directeur général du Centre de recherche en finances publiques et développement local. Il propose à la nouvelle première ministre quelques mesures pour lutter contre les dépassements budgétaires récurrents à la base d'une économie peu reluisante avec une croissance non inclusive au pays. D'abord, cette information, la Cour constitutionnelle vient de prononcer ses arrêts en rectification des erreurs matérielles de son arrêt unique rendu le 12 mars en rapport avec les contentieux des résultats des élections législatives nationales. Elle était saisie sur base de 134 dossiers des requérants qui attendaient depuis le 15 avril la décision de la Cour concernant les erreurs matérielles qu'ils avaient décelées de son arrêt définitif. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. L'Union sacrée pour la nation organise ce mardi des primaires pour départager trois candidats au poste de président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Les députés, membres de la majorité parlementaire, vont donc élire entre Modeste Batiloukwebo, Vital Kamere et Christophe Mbosso, qui sera le prochain candidat président de l'Assemblée nationale. Convoqué par le présidium de l'Union sacrée, ces élections primaires visent à trancher entre ces trois candidats sans susciter trop de frustration, estime un membre du Présidium. Un papier de Michel Kifindangoy, rendu par Murphy Fika.
C'est depuis deux mois maintenant que le leader de l'Union sacrée se bat à l'interne pour briguer le perchoir de l'Assemblée nationale. Un seul poste pour plusieurs candidats, personne ne veut faire allégeance à l'autre. Ce qui bloque depuis un mois maintenant l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Après plusieurs tractations, trois candidats se sont dégagés. Il s'agit de Modeste Batiloukwebo de l'AFDCA, Vital Kamere de l'UNC et l'actuel président du bureau provisoire, Christophe Mbosso. Pour dégager ces trois candidats, tous membres du Présidium, le secrétaire général de l'UDPS, première force politique de l'Union sacrée, invite tous les députés de la majorité parlementaire à l'élection primaire afin de désigner un seul candidat parmi les trois. D'après son communiqué signé ce lundi à Kinshasa, Augustin Kabuya fixe l'élection pour ce mardi après-midi au Palais du Peuple.
Train de vie des institutions en RDC, on en parle toujours. La première ministre devrait former un gouvernement d'au moins des 30 ministres avec des réductions drastiques des salaires et avantages attribués aux gouvernants. C'est ce qu'a affirmé dans une interview à Radio Kapi le professeur Ngoma Binda, qui plaide aussi pour la suppression de certaines institutions, le renforcement de la gouvernance participative. Ces politologues estiment que le gouvernement central devrait prioritairement promouvoir la décentralisation. Michel Kifindangoy.
La réduction du train de vie des institutions devrait prioritairement passer par la formation d'un gouvernement de moins de 30 ministres, estime le professeur Ngoma Binda.
Je pense que le tout premier acte que la première ministre doit prendre, c'est de réduire le nombre de ministres. Il n'est pas normal que nous ayons autant de postes de dépenses en termes de ministère, c'est trop budgétivore. Du temps de Mobutu, la moyenne des ministres qu'il avait, c'est dans les 28. Cela est tout à fait compréhensible. Pas 40.
Ce politologue et auteur de plusieurs livres en éthique politique propose à la première ministre de réduire de façon drastique les rémunérations et avantages attribués aux dirigeants politiques.
Lorsque les députés ont 33 000 dollars, ça blesse la moralité des gens, parce qu'il y a des gens qui meurent de faim par manque de 1000 francs simplement pour s'acheter un petit pain. Les députés nationaux devraient avoir 3300 dollars par mois. 3300 dollars, un point, un trait.
Le professeur Ngoma Binda plaide également pour la suppression des institutions budgétivores qui n'apportent pas grand-chose au quotidien des Congolais.
Honore Kivu, un cas de meurtre par balle dans la ville de Goma, dont l'auteur a été identifié comme un élément des FRDC en divagation. L'incident s'est produit hier dimanche en plein jour au centre-ville. Dans la foulée, 5 autres personnes ont été blessées par les tirs du même militaire, Chris Mukand.
Les témoignages recoupés indiquent que cet homme en uniforme et portant un fusil en état d'ébriété très accentué a surgi de nulle part et s'est mis à tirer des coups de feu dans tous les sens. Il est 14 heures et l'endroit est très fréquenté car c'est un quartier commercial. Nous sommes là dans les rayons du rond-point Chukudu au quartier Mikeno. Les rafales ont donc fauché un passant, décédé sur le coup et plus ou moins 5 personnes blessées. Ayant surmonté la panique et après que le forcené ait vidé son chargeur, des jeunes gens l'ont maîtrisé et sérieusement passé à tabac. C'est l'intervention des forces de l'ordre qui a évité la vindicte populaire. Ce comportement que décrit la population et la société civile locale tend à se banaliser dans la ville de Goma. Des individus portant des armes, en uniforme ou en tenue civile, arpentant les rues sans motif connu, surnommés Satan 2, sont généralement accusés d'avoir la gâchette facile. Les coups de feu deviennent presque la routine à Goma. La nuit des vendredis à samedi, les habitants de quartiers Bujovu et Majengo se sont enfermés très tôt. Et pour cause, des coups de feu nourris se sont fait entendre du côté de l'aéroport. Des cas similaires ont été rapportés dans la majeure partie de la ville. Goma, Chris Mukand, Radio Kapi.
Toujours au Nord Kivu, au moins 100 ménages de personnes déplacées avec plus de 300 enfants de 0 à 17 ans vivent dans la précarité totale depuis un an et demi dans l'enceinte de l'école Moussawato au quartier Katindo 2, commune de Karisimbi. Elles sont venues de différentes localités, notamment de Kibumba et de Buhumba dans les Niragongo ainsi que des territoires de Masisi et Rutshuru. Au moins 16 femmes enceintes se retrouvent dans ces sites sans suivi médical. Dans le cadre de la clôture du mois de la femme, les personnels féminins de l'hôpital général de Goma a décidé de prendre en charge ces femmes déplacées enceintes pour des soins jusqu'à l'accouchement. C'est un reportage de Sifa Maguru.
Comme l'explique cette mère de famille, Foura Moulengezi Jean d'Arc, le vécu quotidien de ces familles n'est pas facile.
Nous vivons dans la misère parce qu'un déplacé n'a jamais connu la joie. Nous n'avons aucune activité et sommes obligés d'utiliser nos enfants pour aller quémander afin de trouver la nourriture. Cela comporte beaucoup de risques. Nos enfants se font tamponner et d'autres tabasser.
Nous y avons également trouvé une dizaine de femmes enceintes qui n'arrivent pas à se rendre au centre de santé de Kanyaruchinya à cause de la distance et d'autres contraintes alors qu'elles sont vulnérables. Certaines affirment avoir accouché sans avoir effectué des consultations prénatales et d'autres disent avoir connu des fausses couches à répétition. C'est l'exemple de Dorika, une jeune mère de 28 ans qui témoigne ici son calvaire.
J'aurais dû avoir 3 enfants, mais j'en ai 2. L'un est mort. J'ai des avortements tous les jours. Ça fait 2 fois ici dans les sites. Je ne sais pas si c'est une maladie. J'ai des douleurs au dos et au ventre. Un autre défi évoqué par les mamans est celui de pouvoir gérer la période des menstrues des adolescentes sans eau, ni savon, ni vêtements de rechange. Des moments très inconfortables qui traversent leurs enfants. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
En Ituri, les collectifs des mouvements associatifs des jeunes appellent le gouvernement à identifier des éléments au sein des groupes armés Codeco, Zaïre, RFPI et FPIC prêts à servir les pays comme volontaires et les envoyer à Goma pour défendre les pays contre l'agresseur. Cette structure l'a dit dimanche à la presse au lendemain de la signature devant le vice-ministre de la Défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemba d'un acte d'engagement de cessation des hostilités par les 5 groupes armés actifs dans la province. Komaji rappelle à l'opinion locale, nationale et internationale qu'il s'agit du 3e engagement de ce type, signé par ces groupes armés après ceux de Nairobi, Bunia et Aru, alors qu'ils étaient censés être déjà engagés dans un processus de paix et mettre fin aux atrocités. Il attire l'attention des autorités invitées à être prudentes face à ces nouveaux engagements des leaders de ces milices pour ne pas tomber dans leur jeu. Xavier Assani, coordonnateur de Komaji, est au micro de Martial Kiza.
Il y a eu beaucoup d'engagements qui ont été pris à ce qui concerne la paix. On a Nairobi, on a les actes d'engagement unilatéral signés au gouvernorat, on a Aru et aujourd'hui, c'est la 4e signature d'un acte d'engagement. Partant des résultats des 3 premiers actes d'engagement pris, nous sommes restés vraiment sceptiques par rapport au nouveau engagement que ces groupes armés viennent de prendre, d'autant plus que tous les 3 autres n'ont pas permis à ceux qui respectent les engagements qu'ils ont pris de cesser le faits et d'observer en attendant le désarmement et la réintégration dans leur vie civile. Nous, en tant que collectif, on voulait proposer au gouvernement cette fois-ci, après engagement de ces groupes armés, pendant cette période d'accalmie où ils sont en train d'attendre l'issue des engagements qu'ils ont pris, de commencer à identifier les éléments au sein de ces groupes armés pour essayer de dénicher les volontaires. Parce que le gouvernement vient de créer un corps de volontaires qui veulent défendre la patrie.
Restons en Ituri, où 4 personnes sont mortes et 3 autres blessées dans un éboulement des terres survenu hier dimanche dans les sites miniers Maïmoussi, à environ 100 km de la ville de Bounia, dans les territoires de Djougou. D'après des sources locales, 3 enfants mineurs figurent parmi les victimes qui se trouvaient illicitement dans ces sites à la recherche des minerais. Des acteurs de la société civile et des activistes des droits de l'homme qui déplorent l'utilisation des enfants dans les mines attribuent cet accident à l'affaissement des terres. Les points avec Ezekiel Mouzalia.
Ce drame a eu lieu autour des 17h locales dans le carré minier de Maïmoussi, région minière située à 2 km du centre commercial de Mbidjo. D'après des sources locales, ces chantiers miniers abandonnés depuis très longtemps comptent au moins 7 puits d'or où les creuseurs artisanaux exploitent les minerais. 7 personnes, dont 3 mineurs qui se trouvaient à l'intérieur d'un puits d'or d'environ 8 mètres de profondeur, ont été ensevelis par la terre. La même source ajoute que 4 personnes sont mortes par asphyxie, tandis que d'autres ont été blessées puis acheminées dans un hôpital, indique des témoins. L'ONG Coalition Associative Résolue pour la Défense des Droits de l'Homme, Coardo, déplore ces drames qui, selon elle, est dû au mauvais état de ces puits, mais aussi aux fortes pluies qui s'abattent régulièrement dans la région. Lembu Urochi est son coordonnateur.
La crise alimentaire est à la base de la présence des affaires minières au foyer minier. Nous demandons aux parents de ne pas laisser accès aux affaires et aux orpailleurs de ne pas utiliser les enfants mineurs pour l'exploitation artisanale de l'or.
Des activistes des droits de l'homme et la société civile dénoncent la présence des enfants dans des périmètres miniers dans cette zone où de nombreux habitants vivent dans l'insécurité alimentaire en raison de l'activisme des groupes armés. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Rendons-nous à présent en province du Tanganyika. Un présumé kidnappeur a été brûlé vif ce week-end par la population à Kongolo. Des sources locales rapportent que la population l'accuse d'être auteur du kidnapping d'un jeune motocycliste. Les détails avec Paulin Munanga.
Le présumé kidnappeur aurait sollicité les services du jeune motocycliste depuis mardi dernier. Il devrait se rendre au champ, indiquent des sources à Kongolo. Depuis qu'ils sont partis, le motocycliste n'a plus fait signe de vie. Inquiets, les membres de sa famille sont allés s'informer auprès de celui qui était venu les solliciter. Ce dernier n'a pas donné des explications convaincantes sur la destination du motocycliste. Pris de colère, les habitants l'ont brûlé vif. La scène s'est passée samedi dernier au quartier Mankoto à Kongolo. Témoignage de la mère du jeune homme disparu. Mon fils a terminé les études en 2022. C'est un diplômé. Par manque de travail, on lui a donné une moto pour faire les taxis. Ces gens sont venus les solliciter parce qu'ils avaient besoin d'un motocycliste. Alors il les a transportés à Nimbanimba à 22 km de Kongolo centre. Arrivés au champ, ils lui ont ravi la moto et l'ont ligoté les pieds et les mains. Ils nous ont confirmé que le motocycliste est déjà tué et ils lui ont ravi la moto. Signalons qu'un complice du présumé kidnappeur qui a été brûlé vif serait en cavale avec la moto. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Autre nouvelle, hausse des pratiques corruptives en milieu carcéral. Le sujet a fait l'objet d'un atelier de sensibilisation ce lundi à la prison centrale de Mbandaka. Atelier initié par l'Observatoire des surveillances de la corruption et de l'éthique professionnelle, Équateur. À l'issue des travaux d'une journée, les participants, dont 30 cadres et agents de cette maison carcérale, ont reçu chacun un exemplaire du code de conduite de l'agent public de l'État avant leur engagement afin de bannir les antivaleurs. Le point avec Paul Richard Malengela.
L'initiative de cet atelier, a expliqué le directeur provincial de l'OCEP Équateur, est due notamment aux nombreuses plaintes de la population, laquelle dénonce plusieurs pratiques corruptives enregistrées à la prison centrale de Mbandaka. Entre autres, a-t-il dit, le monnayage de visite auprès des détenus, le clientélisme, la concussion ou encore le détournement des frais dus au trésor public. Mais Taylor Lompokompela a recommandé aux participants un comportement digne.
À l'issue des échanges que nous avons avec eux, il est ressorti clairement que la corruption fait partie partie des anti-valeurs. Alors, pour redorer l'image de marque de notre pays et de l'agent public de l'État, quand bien même aujourd'hui on ne voit pas arriver à des résultats déjà que nous avons bannis, néanmoins, nous avons tous accepté de déclencher ce processus qui va lentement et sûrement vers les changements des comportements des agents publics de l'État, de là où ils sont affectés.
Comme plusieurs autres agents publics, cet inspecteur judiciaire qui a requis l'anonymat a opté pour le changement des comportements.
Après cet atelier, j'ai constaté que ce sont de bonnes choses qui sont passées et la conscience de chacun fait partie de ce qu'on avait dit tout à l'heure aussi. Mais je trouve que ce qu'ils nous ont donné, c'est quelque chose de très important et ça peut améliorer aussi les conditions de travail dans notre établissement pénitentiaire.
Notons en fait que cet atelier a bénéficié de l'appui du programme d'appui à la réforme de la justice par J2. Bandaka pour Chamalingué, la radio Okapi.
Actualité internationale.
Pascaline Bongo, aînée du défunt président gabonais Omar Bongo, soupçonnée de corruption passive d'agents publics étrangers au début des années 2010 au Gabon, a été relaxée lundi par le tribunal correctionnel de Paris. Aux côtés de la sœur du président déchu, Ali Bongo, âgée de 68 ans, ont comparu début 2024 la société d'ingénierie française Egis et trois de ses anciens cadres, ainsi que l'homme d'affaires gabonais Frank Ping et l'avocate Daniel Palazzo Gauthier. Tous ont été relaxés.
L'invité.
Tractation pour la formation du nouveau gouvernement. Des acteurs de la société civile exigent une réduction du train de vie des institutions. Cela pour dégager des lignes budgétaires pour des investissements. C'est notamment Valérie Madianga, directeur général du Centre de recherche en finances publiques et développement local. Il propose à la nouvelle première ministre quelques mesures pour lutter contre les dépassements budgétaires récurrents. Situation à la base d'une économie peu reluisante avec une croissance non inclusive. Valérie Madianga, directeur général de Créfedel, s'entretient avec Cynthia Bachizinabizana.
Valérie Mandianga, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Aujourd'hui, tout le monde est d'avis qu'il faut absolument réduire le train de vie des institutions au niveau du Créfedel. Qu'est-ce que cela vous inspire?
Bon, le train de vie des institutions, d'abord, c'est au niveau de la budgétisation. C'est-à-dire qu'il faut regarder quelles sont les lignes budgétaires qui sont surestimées et aussi des lignes budgétaires qui n'ont aucune importance. Et lorsque nous faisons nos analyses, nous avons toujours relevé qu'il y a d'abord la question des dépenses qui ne sont pas très, très importantes. Vous avez par exemple les fonds spéciaux d'intervention. Cette ligne budgétaire, elle est pratiquement, je m'excuse pour la tautologie, budgétivore. Pourquoi? Parce qu'elle intervient pratiquement dans toutes les grandes institutions. Vous avez le Parlement, vous avez au niveau de la présidence de la République et vous avez quelques services spéciaux.
Et elle fait et quoi, cette ligne?
Cette ligne-là,
elle vient appuyer quel besoin?
C'est une rémunération bis et le fonctionnement bis. Je peux vous donner l'exemple. Vous avez par exemple au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cette ligne revient deux fois. Elle sert à financer d'abord le fonctionnement des commissions parlementaires, mais aussi elle permet à rémunérer certains agents. Vous voyez, si vous regardez davantage les crédits, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, vous verrez qu'il y a aussi une ligne rémunération, que ce soit pour les députés, mais aussi pour l'administration de l'Assemblée nationale. Et cette ligne, dans le décaissement des fonds, on fait ce qu'on appelle la mise à disposition des fonds. Ça ne suit pas la chaîne de la dépense publique. Et cette ligne, à elle seule, peut être évaluée autour de entre 200 et 300 millions de dollars par an. Et la gestion de cette ligne-là, elle est vraiment catastrophique. C'est pourquoi il faut d'abord...
Catastrophique ou opaque?
Opaque même, je peux dire. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on regarde d'abord cette ligne-là pour voir dans quelle mesure on peut détailler la ligne en termes de dépenses. Qu'est-ce qu'on couvre réellement? Je pense qu'on peut capter quelque chose. Si on va au niveau de la présidence de la République, vous avez par exemple, on parle trop de l'inspection générale des finances, qui est aussi dotée par ce fonds-là qu'on appelle le fonds spécial d'intervention. Ça explose. C'est autour de 30 millions de dollars l'année. Moi, je pense que si on doit faire les économies, à ce niveau-là, d'abord, on peut dégager quelque chose. Deuxièmement, c'est au niveau des recrutements. Vous savez que dans des cabinets des ministres, on recrute en désordre la taille du gouvernement. Je crois que on doit voir d'abord, en termes de conseillers, on doit en avoir combien? Je me souviens que le dernier décret fixait autour de 37 à 40 membres d'un cabinet du ministre. Mais dans la faisabilité, on atteint le 100 et le 150. Vous savez qu'il y a même des personnels au niveau des cabinets des ministres sont payés même par des listes additives. Donc, on n'est pas à mesure de capter la vraie masse salariale à payer à tous ces membres-là des cabinets politiques.
Alors, Valérie Mantenga, comment corriger toute cette situation qui devient récurrente, hein?
Oui, moi je pense qu'il faut d'abord commencer par revoir d'abord le nombre de membres au niveau des cabinets. Vous avez un ministre, dans son cabinet, il a des chargés d'études. Si vous allez au niveau de l'administration, il y a aussi des chargés d'études. À quoi serviraient maintenant les chargés d'études qui accompagnent les ministres? Or, pourraient être accompagnés de 2, 3 ou même une dizaine de conseillers et qui s'appuient au niveau de l'administration. Parce qu'au niveau de l'administration, vous avez au moins tous les services spécialisés qui peuvent accompagner l'action du premier, plutôt d'un ministre. Mais ça ne se fait pas comme ça. On explose le nombre de membres, on recrute et on ne tient même pas compte du cadre organique du ministère ou même du cadre organique qui devrait régir un cabinet du ministre. Il faudrait que le Premier ministre prenne d'abord la décision, une grande décision, pour signer un décret qui devrait limiter le nombre de membres de cabinet et leurs assimilés. Il faut qu'il y ait un courage. Vous savez, madame, si nous faisons des simulations, nous pouvons gagner autour d'$1 milliard juste pour les économies qui pouvaient être effectuées au niveau des ministères, mais aussi au niveau des institutions. Nous changeons de gouvernement, mais le mode de gouvernance ne change pas. C'est ça le vrai problème.
Valérie Mandianga, merci.
Je vous remercie.
Et c'est la fin de ce journal, madame, messieurs. Mise en onde par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa, sous la supervision et coordination de Alain Irung Mouchinge et Jude Bilandankoumar. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.